La première, restons curieux. Et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions.
Bonjour, c'est le début de la saison estivale pour Et Dieu dans tout ça, et à partir d'aujourd'hui, durant les mois de juillet et d'août, je vous proposerai de réécouter chaque dimanche quelques-unes des émissions les plus marquantes de ces deux dernières années. Et pour commencer, retour au 11 septembre 2005, soit 4 ans exactement après les fameux attentats de New York, nous recevions dans Et Dieu dans tout ça Tariq Ramadan, Felice D'Aceto et Jean-Pierre Milelli pour un débat sur les racines religieuses des actions d'Al-Qaïda.
Et Dieu dans tout ça, le magazine des philosophies et des religions.
Il y a donc 4 ans, jour pour jour, un attentat d'une exceptionnelle envergure a frappé le cœur des États-Unis d'Amérique. Souvenez-vous, 2 avions chargés de passagers se sont écrasés sur les tours jumelles du World Trade Center de New York, tandis qu'un 3e touchait le Pentagone à Washington. L'événement historique à plus d'un titre a plongé le monde entier dans la stupeur et ses conséquences multiples n'ont pas fini de peser sur le devenir de l'humanité tout entière. Cependant, et surtout après les attentats de Madrid et de Londres, pour n'évoquer ici que ces deux-là, il est crucial sans doute de comprendre les raisons pour lesquelles des jeunes gens mettent délibérément fin à leur jour en même temps qu'ils tuent des dizaines, des centaines, voire des milliers d'autres personnes avec eux. Il y a donc derrière ces actes spectaculairement extrêmes des motivations très puissantes. Quelles sont-elles ? Sont-elles politiques ou religieuses ? Ou bien les deux à la fois ? Sont-elles la conséquence d'un endoctrinement pur et simple ? Ou bien le fruit d'une réflexion théologique profonde ? Est-ce que la religion musulmane est intrinsèquement plus encline que d'autres à susciter des comportements de ce genre ? Eh bien, ce sont quelques-unes des questions que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui dans « Et Dieu dans tout ça ». Et pour en parler, nous accueillons d'abord Felice D'Aceto. Bonjour.
Bonjour.
Felice D'Aceto, vous êtes belge, vous êtes professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain et plus spécialement au Centre d'études de l'islam contemporain. Depuis Londres, par téléphone, nous sommes heureux d'accueillir également Tariq Ramadan. Bonjour.
Bonjour.
Islamologue suisse, professeur dans différentes universités aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Alors, vous êtes en direct depuis Londres et nous vous remercions d'avoir pu vous libérer pour participer à cette émission. Et puis, nous accueillons aussi en direct depuis Paris Jean-Pierre Milelli, agrégé d'arabe et professeur à Sciences Po. Alors, Jean-Pierre Milelli, je vais tout de suite me tourner vers vous, puisque vous venez avec une équipe pluridisciplinaire sous la direction de Gilles Kepel de publier aux presses universitaires de France un livre tout à fait singulier qui s'intitule « Al-Qaïda dans le texte ». Alors très simplement, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Était-il nécessaire, indispensable de retourner au texte ?
Je crois que ça ne fait aucun doute et c'est ce que nous avons essayé de faire donc en proposant les traductions de toute une série de textes émanant des principaux responsables de ce que l'on appelle l'islamisme radical, à savoir donc parmi les plus connus Oussama Ben Laden et Ayman al-Zawahiri, mais aussi celui que l'on peut considérer comme le mentor spirituel donc de Ben Laden, Abdallah Azam, qui est décédé il y a quelques années. Et enfin, en quatrième auteur, Abu Musab al-Zarqawi, qui est aujourd'hui connu dans le monde entier grâce, si l'on peut dire, à son action en Irak.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre ? Ce sont des textes ? C'est une édition critique quand même ?
Oui, c'est une édition critique dans la mesure où on trouvera en page de droite les textes traduits, disons convenablement, et en page de gauche toute une série de commentaires pour expliquer la culture que partagent ces auteurs, les références qu'ils font à des événements qui peuvent avoir être advenus durant les dernières années ou il y a une dizaine de siècles, et ainsi constituer une sorte de corpus. Mais j'insiste, le but c'est surtout de donner accès à cette littérature qui a été produite et qui se trouve en divers endroits. On peut la trouver sur Internet, on peut la trouver dans des publications, on peut la trouver évidemment, ça peut être le texte de proclamation faite via des cassettes envoyées à une chaîne de télévision proche-orientale. Et ce sont des textes aussi de divers statuts, c'est-à-dire qu'il peut avoir, il peut s'agir donc de proclamations, de textes théoriques, de textes stratégiques, de textes de souvenirs. On a par exemple un texte d'Oussama Ben Laden où il raconte comment il a découvert le djihad en Afghanistan lors de la lutte contre l'occupation soviétique. Donc on peut parler d'un corpus et nous avons essayé, les 5 auteurs que nous sommes, donc on a essayé donc de donner accès à cette littérature, considérant que vu l'ampleur du débat suscité par ces événements que vous avez rappelé brièvement, brièvement, il était impératif que l'on ait accès au texte.
Alors, dans une carte blanche publiée dans La Libre Belgique en date du 30 août 2005, le directeur de l'Institut d'études des civilisations musulmanes de l'Université Aga Khan de Karachi, donc au Pakistan, Abdou Filassi Ansari, disait justement qu'il ne fallait pas tomber dans cette espèce de piège pseudo-théologique qui consiste en fait à débattre avec les djihadistes sur le plan de la théologie. Selon lui, la théologie n'a rien à voir avec cela, le djihad n'a rien à voir avec les assassinats purs et simples. Alors, je vous pose la question à vous trois à la cantonade et je vais peut-être demander à Tariq Ramadan de réagir en premier lieu. Doit-on discuter sur le plan de la théologie avec les djihadistes ?
C'est difficile de discuter sur le plan de la théologie. Maintenant, disqualifier le débat avec ceux qui utilisent, parce qu'on est obligé de le reconnaître, c'est une réalité factuelle. Et d'ailleurs, les textes auxquels fait référence M. Mulally sont truffés de références coraniques à la religion. Alors, il faut débattre de cela pour disqualifier le propos, pour montrer sa simplicité, son simplisme, sa superficialité parfois, son caractère binaire. Alors, on n'arrivera pas à convaincre ceux qui développent tout cela, mais on pourra toucher ceux qui peuvent être influencés par cette rhétorique. Alors, il y a à débattre pour pouvoir prévenir tous ceux qui pourraient être influencés des dangers d'un tel discours. Plus que cela, on ne peut pas faire, mais on ne peut pas disqualifier le débat de cette façon, à mon avis.
Felice D'Aceto.
Oui, je pense aussi qu'il ne faut pas le disqualifier et ne pas oublier qu'il s'agit des textes en question, il s'agit d'un langage qui est un langage d'action, un langage politique éminemment. Et donc c'est un langage qui est proche d'une rhétorique et d'une idéologie, qui est proche d'une idéologie. Alors là, ce qui est intéressant dans l'analyse, me semble-t-il, lorsqu'on analyse une idéologie, c'est faire une distinction entre une idéologie de type universaliste, donc qui propose une vision globale du monde, et une idéologie qui est plutôt particulariste, et il me semble le cas de ce texte, c'est-à-dire qui s'enracine à partir de la réalité locale. Donc il plonge des référentiels universels, une certaine vision du combat, une certaine théorisation du politique, du monde, il le plonge par rapport à la réalité concrète. Et on est devant ce type de texte-là. Mais certainement, il est intéressant d'essayer, comme il me semble qu'il propose M. Mulally et Gilles Kepel et les autres auteurs, une sorte d'analyse, de décortiquage de ce texte.
Est-ce qu'il n'y a pas une chose remarquable, c'est que les attendus théologiques, si je puis dire, de la plupart de ces textes plongent vraiment au cœur du Moyen-Âge, du XIIe et du XIIIe siècle, c'est-à-dire à des moments où historiquement l'islam a été menacé dans ses fondements, au moment des croisades chrétiennes, mais aussi au moment de la prise de Bagdad par les Mongols, où là vraiment l'islam a été à deux doigts de disparaître complètement, ou en tout cas de vaciller dans ses bases. Et on voit bien combien des penseurs ou comme Ben Laden et d'autres vont chercher dans une espèce de geste héroïque des raisons d'articuler un discours qui justifie, bien sûr, il faut bien le dire comme ça, les actes terroristes d'aujourd'hui. Alors est-ce qu'il est besoin, je ne sais pas, Tariq Ramadan, est-ce qu'il est besoin de plonger aussi loin pour justifier des actes pareils ?
Rien ne peut les justifier. Le problème, c'est que ceux qui sont porteurs de cette idéologie-là construisent à partir de références de l'histoire musulmane. Et effectivement, vous avez raison de le mettre en évidence. Au commencement du renversement du rapport de force ou perçu comme tel dans le monde musulman, où tout à coup, ce qui va être mis en avant, c'est le caractère du fait d'être dominé, de résister, du conflit, de soi se protégeant de l'autre, de soi trouvant sa gloire dans la résistance à l'autre. Et évidemment qu'en important cette perception du monde, cette vision binaire, cette vision du conflit, cette vision de la domination du dominant et du dominé, on va toucher à des perceptions qui peuvent être réelles aujourd'hui et sur lesquelles on va surfer, on va simplifier, on va donner une vision du monde qui est simplificatrice sans aucune contextualisation historique. Alors, bien sûr que c'est une idéologie qui fait feu de tout bois et dont, alors, justement, il faut avoir la capacité de démonter, de déconstruire le discours et le propos sur le plan islamique de l'intérieur, texte à l'appui pour montrer l'incohérence, la simplification de cette façon de prendre des parties du message en oubliant l'aspect global et universel. Mais il faut bien entendu ensuite avoir et déterminer, là Fidali Ansari a raison, un discours politique qui répond à une idéologie politique du conflit et du clash.
Et Jean-Pierre Milleli ?
Oui, j'estime moi aussi qu'il n'y a pas de raison d'éviter ce débat de caractère théologique, à condition de ne pas s'y laisser enfermer. Quant à l'histoire qui est évoquée constamment par ces auteurs, il faut peut-être dire deux choses. D'une part, il est fait allusion certes à ces moments difficiles où les pays du Proche-Orient étaient pris en tenaille entre les croisés et les Mongols. Il est aussi fait énormément allusion au premier temps de l'islam, à la vie à Médine, au rapport avec, par exemple, les tribus juives médinoises. Ce qui est toutefois remarquable, c'est que l'histoire est constamment évoquée, elle est ressassée, mais elle est vue d'une manière pétrifiée, essentialiste, éternelle.
Comme si rien n'avait bougé.
Comme si rien n'avait bougé et comme si rien ne devait bouger. En quelque sorte, on attend l'histoire humaine la confirmation d'affirmations coraniques ou de lectures d'affirmations coraniques. Et c'est ainsi que, par exemple, juifs et chrétiens sont de toute éternité les ennemis des juifs, les ennemis des musulmans, et le resteront. Et on ne verra dans les activités de ceux qui représenteraient ces groupes humains que la confirmation de cette vision de complot.
Felice D'Aceto.
Au fond, toutes ces religions ont la question de l'interprétation des textes fondateurs. Mais en même temps, je me dis que dans les religions, qui sont une plongée de Dieu dans l'histoire, il y a aussi un problème d'interprétation des faits fondateurs. Alors la question que je me pose, que pour les chrétiens ce sera la crucifixion, pour les juifs ça sera le voyage d'Égypte, etc. La question que je me pose est-ce que l'islam n'est pas aussi confronté justement à la question de l'interprétation des faits fondateurs et pas seulement des textes? Or, cette double volée, texte et faits, ne me semble pas souvent posée. On voit que de plus en plus on pose la question de l'interprétation des textes, en islam aussi. Oui. La question des faits fondateurs, qui sont des faits, qui malgré tout, ce sont des faits de combat, des faits de lutte. Le fait fondateur de l'islam se fonde également là-dessus. Donc là, il y aura aussi un problème majeur, je pense, pour le devenir de l'islam, qui est celui de comment interpréter ces faits. D'où la rigidification dont parlait M. Milleli, la lecture rigidifiée de l'histoire, dans une littéraliste des faits.
Voilà, littéraliste et puritaine aussi.
On
retourne vers une pseudo-pureté des premiers temps. Vous êtes d'accord ou vous avez une réponse, Jean-Pierre Milleli, peut-être?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et ce que nous avons essayé dans Al-Qaïda, dans le texte, c'est aussi d'aborder les débat concernant justement des faits fondateurs de l'histoire islamique, sans évidemment prétendre épuiser de telles questions, afin de montrer que il peut y avoir là aussi matière à débat. J'ajouterais que il ne faudrait pas croire non plus que dans les textes de ces auteurs islamistes, il n'y ait pas débat. Il y a débat, malheureusement, il est parfois limité par des arguments d'autorité. Et puis, comme on sait, les textes ne constituent pas leur seul œuvre, si je puis dire, il y a également des actes. Mais il y a une tradition du débat en islam. Malheureusement, elle est réduite à sa plus simple expression et elle est accompagnée de pratiques qui, elles, ne permettent pas le débat.
On va avancer un petit peu. Est-ce qu'il y a des filiations identifiables par rapport à ce corpus de textes, par rapport à ces justifications? Je veux dire, est-ce qu'on arrive en remontant le temps à retrouver, par exemple, je sais pas, les frères musulmans à partir des années 1920, peut-être le wahhabisme encore un petit peu plus tôt. Est-ce que là, les filiations sont claires ou bien on est vraiment dans un taillis touffu?
Il y a non seulement des filiations, mais il y a aussi, si je puis dire, de vieilles rancœurs. Par exemple, il y a un texte dans notre recueil, un texte d'Ayman al-Zawahiri, dans lequel il reproche aux frères musulmans leur collaboration, pour ainsi dire, avec l'État égyptien. Donc il y a certainement des filiations, des oppositions, par exemple, avec les frères musulmans, des filiations avec le wahhabisme, mais elles font l'objet d'imprécations ou de rejets.
Tariq Ramadan ?
Oui, je crois, je crois qu'il y a deux choses à dire. Je pense que il y a une chose qui a été mise en évidence et qui revient aujourd'hui sur le devant de du propos, c'est l'analyse de l'histoire, et ça c'est une évidence. Vous avez là affaire à une pensée qui lit l'histoire comme elle lit le texte, c'est-à-dire effectivement de façon rigide, de façon littérale, et même l'histoire récente, elle est perçue tout le temps sous l'angle de cette opposition, de ce conflit et de ce rapport de domination et de l'affirmation de l'islam dans l'opposition. Et dans l'histoire récente, alors évidemment vous avez une longue tradition de la pensée politique musulmane, mais qui remonte à très loin, contrairement à ce qu'on dit, ça ne remonte pas aux années 20 ou 30 avec les frères musulmans. La pensée politique de l'islam trouve déjà, et bien avant encore, ses racines dans la pensée d'un Avrani qui était, lui, dans un rapport d'opposition politique, ou dans Mohamed Abdou, dont on oublie sa position sur la question du colonialisme. Et à un moment donné, il y a une filiation, il y a un rapport au politique, mais il y a une rupture aussi. C'est-à-dire que le projet de certains, c'est la construction contre la colonisation ou sous la colonisation d'un projet qui peut être endogène et qui est avec lequel on peut être ou pas d'accord, mais qui est complexe et qui tient en compte la société ou les sociétés majoritairement musulmanes, alors que là, ce qu'on a comme rupture, aussi à une époque qui est post-répression, ça c'est vrai aussi, il ne faut pas l'oublier, car beaucoup de ceux qui se retrouvent dans les mouvements les plus radicaux sont passés sous la répression d'un certain nombre de régimes, pas tous, mais certains. Et ce qui va aujourd'hui déterminer le projet politique, ça n'est plus la construction d'une société, c'est l'opposition à l'Occident qui domine, et tout est sur cet angle-là. Donc la théologie, c'est une théologie de la confrontation et de la littéralité, et le regard de l'histoire, c'est le regard d'une domination que l'on refuse et dont on cherche les voies de la libération par tous les moyens possibles. Et donc on est là aussi dans la simplification du discours politique à une simple opposition et à la légitimation de la violence comme moyen de parvenir à une libération rêvée, idéalisation de l'histoire et rêve d'un futur.
Est-ce que c'est pour cela que les jeunes des banlieues défavorisées, algériens ou marocains en Europe continentale, pakistanais ou éventuellement indiens ou bangladis en Grande-Bretagne, finissent par passer à l'acte, alors qu'a priori on pourrait croire qu'ils n'ont pas de raison de le faire, mais c'est dans une espèce de représentation symbolique d'une opposition à un modèle de société? Est-ce qu'on pourrait dire les choses un peu comme ça? Parce que je ne pense pas que Ibn Tamiya ou Mohamed Abdel Wahhab sont des gens très connus par ailleurs dans ces mêmes milieux. Donc où se situe la jonction selon vous?
Oui, non, mais même la pensée de ces auteurs et de ces savants musulmans est réduite à sa plus simple expression. Ils étaient bien plus sophistiqués qu'ils ne sont dans la littérature d'aujourd'hui. Mais ce qui est vrai, c'est que ce type de positionnement politique qui est en fait l'absence de conscience politique, qui est vraiment le dogmatisme qui s'applique au monde et qui n'est pas une pensée politique, qui est simplement une idéologie de la confrontation, elle a forcément plus de chances d'attirer ceux qui sont en marge de la société et dont l'essentiel du regard à la politique est lié à l'émotivité, à la confrontation et à la frustration, bien sûr. Mais encore une fois, il faut qu'on soit très très prudent. Nous sommes en train de parler ici de personnes tout à fait à la marge de ces communautés-là.
C'est ce que vous allez dire au gouvernement britannique qui vous a demandé de faire partie de la task force voulue par Tony Blair ?
Ah, moi, ce que je dis, si vous voulez, dans ce groupe de travail, c'est deux choses. La première, c'est que nous avons des responsabilités partagées. Il y a une nécessité fondamentale pour les musulmans de faire un travail autocritique, d'interprétation, de regard sur l'histoire, de regard sur le discours que l'on tient, sur la culture occidentale, sur la culture britannique. Ça, c'est une responsabilité majeure. L'auto-isolement, c'est aussi important. Mais d'un autre côté, effectivement, il faut des réponses politiques à des questions politiques. Il ne faut pas confessionnaliser tous les débats politiques. Les gens, quand ils descendent dans la rue et qu'ils disent non à la guerre en Irak, il ne faut pas le confessionnaliser. Il faut répondre politiquement à une question politique et refuser la relation de l'acte politique violent à l'acte politique considéré comme injuste. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, même si éthiquement, Tony Blair a raison de dire qu'on ne pourra jamais justifier les attentats de Londres par rapport à ce qui se passe en Irak. L'autre élément, par contre, qui est fondamental, c'est vraiment toute la réflexion sur la politique sociale, sur la mixité sociale. Et là, on est tous responsables. Donc, je crois que face au discours qui a été publié en français, le lecteur, plutôt que de voir ce qu'ils disent, et simplement ce qu'ils disent, doit, musulman ou non, se poser la question de savoir ce que lui, il a à faire pour que ce type de discours-là ne prenne pas le dessus sur notre possible construction critique ensemble.
Mmh. Félix Edaceto, vous travaillez justement sur l'islam contemporain. Est-ce que vous rejoindriez Tariq Ramadan ?
Oui, d'une certaine manière, au moins dans le fait d'avancer dans une interprétation complexe, et de dire que le succès d'un certain discours islamiste dans ses différentes variantes vient aussi de la carence de notre discours d'opposition. Moi, souvent, ça peut scandaliser certains, mais je me suis trouvé à penser, si j'étais quand il y avait le show du conflit algérien, si j'étais un jeune en Algérie, moi, à Alger, dans les banlieues d'Alger, dans la Casbah d'Aba, de quel côté je serais ? Moi, je ne savais pas donner une réponse. Donc, il y a vraiment là une carence d'un projet qui soit une alternative à un autre discours. Là, il y a une grosse question dans le post-communisme qui véhiculait ce type de langue. Comment construire un autre discours ? Mais par ailleurs, concernant les discours et concernant maintenant éventuellement l'audience que ces discours ont, je me demande si c'est une question de discours ou une question d'action. Est-ce que l'audience de Ben Laden n'est pas dans l'action ? Vous savez, moi, j'étais dans mes travaux de recherche, j'étais à Ouaga 4 mois après. Au Burkina Faso, 4 mois après les attentats du 11 septembre. Et dans le marché de Ouagadougou, dans la brousse même, il y avait des t-shirts avec Ben Laden. Or, ces gens ne connaissaient rien du discours de Ben Laden. Simplement, c'était un coup fait aux Blancs, indépendamment de tout. Autrement dit, est-ce que c'est dans la logique de l'action ? Et il faut dire qu'en islam, la logique de l'action est très légitimante, œuvrée pour l'islam.
C'est ce que Ben Laden annonçait dans cette fameuse interview accordée à un journaliste américain plusieurs mois avant les attentats du 11 septembre 2001, Jean-Pierre Milelli, où le journaliste lui demandait « Avez-vous un message à faire passer au président des États-Unis » Et Ben Laden répond en substance « Oui, mais pas avec des mots parce qu'il ne les comprend pas, nous allons lui répondre autrement ». Et effectivement, je veux dire, c'est réellement ce qui s'est passé.
Tout à fait, mais cela dit, il ne faut pas négliger le texte en tant que légitimation des actes, qu'elles soient a posteriori ou a priori, et aussi il faut aussi voir comment des gens tels que Ben Laden, qui n'ont pas de formation religieuse, même s'ils ont une authentique piété musulmane, légitiment leurs actions à l'intérieur du monde arabo-musulman par ce type de discours. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Certes, il y a des problèmes sociaux et malheureusement, il risque d'y en avoir longtemps, mais on ne comprendrait pas ce cocktail détonnant que constitue pour certains jeunes la piété héritée de leurs parents avec le discours de ces espèces de nouveaux héros de l'islam que sont les islamistes, si on ne comprenait pas aussi que, à mon sens, l'islam paye aussi, d'une certaine manière, la prédominance d'une tradition dogmatique. Et je ne peux pas adhérer à l'affirmation que tout le monde est responsable des attentats de Londres. Mmh. On voit très bien, lorsque on entre dans le détail des textes, qu'il y a aussi un dogmatisme absolument pétrifiant, c'est le cas de le dire, et que ça, c'est une veine qui court tout au long de l'histoire musulmane. Certes, je ne veux pas faire des sens et de dire qu'en quelque sorte les textes généreraient des situations dogmatiques.
Tariq Ramadan.
Non, ça n'est pas ce que je dis. Je dis que à l'inverse de vous qui venez de nous dire qu'il y a des responsabilités partagées, il faudrait tout de même avoir aussi un autre son de cloche, si je puis dire. C'est-à-dire, il faudrait aussi tenir aux masses musulmanes aussi empêtrées fussent-elles dans des problèmes sociaux, politiques et éventuellement dans des ingérences étrangères, un discours qui soit autre que celui du ressentiment. Voilà ce que je pense il faut dire clairement et nettement.
Tariq Ramadan ?
Oui, mais ça, c'est une évidence. Je veux dire, c'est répéter avec d'autres mots ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir ce discours autocritique. Il faut appeler les musulmans à l'esprit critique, à cesser d'idéaliser leur passé. Et ça, c'est tout à fait vrai, ce qu'a dit Felice da Fesseto sur la période fondatrice, c'est-à-dire ce qu'on appelle la période mécoise et la période médinoise. Il faut cesser de l'idéaliser et il faut effectivement faire un travail critique parce qu'on a affaire à des êtres humains et on a affaire à de l'histoire dans lesquelles il y a de la relativité, il y a de l'erreur, il y a des approximations, il y a eu des excès. Bien sûr, tout cela est à étudier et il faut avoir ce regard critique. Ce regard critique est la responsabilité fondamentale et première des musulmans à travers l'histoire et surtout aujourd'hui. Il demeure qu'en même temps que cela est une évidence, on ne peut pas, quand il s'agit justement de positionnement politique d'individus, même s'ils sont dans la plus grande des aliénations ou qui sont dans le plus extrême des positionnements politiques, on ne peut pas négliger l'analyse politique qui consiste effectivement de frustration, en injustice, en deux poids, deux mesures, à développer plus de ressentiment, à développer. Alors il faut cesser la victimisation, mais on ne peut pas ne pas tenir compte de populations qui sont en Afrique, qui sont en Afrique du Nord, qui sont en Asie, au Moyen-Orient, qui développent effectivement aujourd'hui, ou même dans les sociétés occidentales, qui perçoivent qu'aujourd'hui, il y a une politique générale de domination, de déni de droit et puis finalement de catastrophe. Et là, il faut des réponses politiques. Il faut une réponse politique citoyenne au désastre de l'invasion en Irak, au désastre que l'on ne nous annonce pas comme tel de ce qui a été fait en Afghanistan et puis de l'unilatéralisme américain sur la question palestinienne et du silence européen sur ces questions. De ces questions-là, il faut comprendre qu'il y a des responsabilités. Vous savez, la réponse de Bush en disant « ils haïssent notre civilisation » est une réponse aussi simpliste que le fait qu'ils haïssent l'islam. C'est pas cela, la réponse politique. Et on ne peut pas ne pas tenir aussi ce discours-là. C'est le seul moyen d'être entendu et c'est le seul moyen d'évoluer vers quelque chose qui est discours religieux très critique et autocritique, discours politique exigeant et promouvant la justice.
Oui, Felice da Fesseto, puisque vous travaillez en Afrique
Mais je crois qu'on est quand même, on est tous les trois d'accord pour dire que rien ne justifie un type de politique qui amène à des attentats meurtriers de cette nature. Je pense que là, on est d'accord. Mais moi, ce que j'entends dans ce que M. Ramadan dit, c'est encore une autre chose. C'est que la situation est encore plus grave que ce qu'on le croit. Parce que si la question était seulement celle de quelques groupes terroristes, et si la question était seulement celle de quelques auteurs tenant un certain type de discours, tout compte fait, c'est déjà très compliqué, mais ça serait relativement simple, une lutte antiterroriste bien menée, qu'il faut mener, suffirait pour éradiquer cette situation.
Et bien ciblée.
Mais si, au contraire, cela, ce n'est que la pointe d'un iceberg, la pointe d'une expression qui, en effet, elle est plus diffuse, alors l'enjeu est beaucoup plus lourd.
Oui.
La question est beaucoup plus lourde. Parce que alors, comment faire pour sortir ?
Elle est très très lourde, cette question. Je crois que c'est que le
haut
de l'iceberg. Il faut pas se cacher les yeux. On a vraiment à faire quelque chose d'extrêmement complexe.
Est-ce que le fait que justement ce soit des jeunes anglo-pakistanais qui aient été impliqués dans les attentats du mois de juillet à Londres n'a pas stupéfié tout le monde ? Parce que justement, ce que tout le monde redoutait est arrivé en fait.
Ben oui, bien sûr. Je veux dire, ce sont quand même des jeunes qui sont nés ici et qui ont vécu ici, et ça montre le degré d'aliénation possible et de ressentiment entretenu et d'absence de réelle prise en compte de ces questions par la communauté musulmane elle-même, et puis du déficit de réponse ou d'entre-connaissance, si vous voulez, de possibilités pour les gens de vivre ensemble, parce que ce sont des gens qui étaient à la marge, qui se sont rencontrés dans des clubs de sport, etc. Et donc là, vraiment, ça nous renvoie à quelque chose d'extrêmement profond. Il y a un vrai, vrai, vrai travail à faire. Et moi, je peux vous dire, en visitant le monde musulman, cette espèce de ressentiment, cette attitude de victime, cette vision que l'Occident, la guerre contre le terrorisme, c'est la guerre contre l'islam, c'est présent, c'est diffus, c'est présent dans la société. Donc, bien sûr que ceux qui versent dans l'acte terroriste sont à la marge, mais ceux qui nourrissent cette espèce de ressentiment est très présent, très diffus, et il y a vraiment un travail à faire. Là, il y a un vrai travail critique à faire sur ce qu'on est en train d'entretenir dans les sociétés majoritairement musulmanes, et nous aussi, là où nous sommes, on l'Occident, il faut que nous comprenions notre responsabilité majeure à travailler ensemble pour apporter d'autres réponses, non pas émotives, non pas simplistes et simplificatrices, mais autour de valeurs qui nous sont communes à ces questions-là. C'est là où est notre grande responsabilité. Vous savez, le clash entre les deux univers, pour le présenter de façon simplificatrice, il ne sera pas à la frontière pakistanaise, il ne sera pas à la frontière afghane, il sera là où nous sommes, nous, dans les sociétés libres et démocratiques, parce que si dans ces univers-là, nous ne sommes pas capables de vivre ensemble, de dialoguer de façon critique et exigeante, d'aller jusqu'au bout de nos questions, mais aussi jusqu'au bout de nos idéaux communs, si on n'y arrive pas là, comment voulez-vous qu'on réussisse à s'entendre sur une plus grande échelle ?
Jean-Pierre Milleli ?
Oui, je crois que, sans vouloir simplifier, il faut donc revenir à une acculturation, à une connaissance donc de cette histoire musulmane, de ces musulmans que nous croisons tous les jours dans nos travaux ou dans nos villes, et que pour ce faire, il faut tout de même revenir un petit peu à quelque chose de stable, aux références, et c'est ce que nous avons essayé de faire avec ce travail. Mais cela dit, je me garderai pour ma part de m'élancer dans une culpabilité généralisée et une simplification. Je pense qu'il y a, de même qu'il y a des responsabilités du gouvernement américain, il y a des responsabilités des individus qui décident pour une cause, quelle qu'elle soit, ou pour une rancœur plus ou moins fondée, de tuer leurs compatriotes.
Je vais vous poser, parce que vous semblez passer comme ceci, comme chat sur braise, sur la responsabilité américaine. Je veux dire, dites-nous quand même quelque chose. Vous estimez que la politique américaine aujourd'hui, elle est à même de résoudre le problème sur le plan international ? C'est la bonne réponse au texte que vous avez traduit en français ?
Non, ça n'est certainement pas la bonne réponse, mais je me garderai de
non, mais dites-nous, je me garde. Non, mais évaluer un peu cette politique. Parce
tout
que
à fait, non.
Je me garderai en
passant. Non, mais je me garderai en tout cas d'y voir une croisade contre l'islam.
Non, mais
je vous parle, moi, d'interprétation. Il y a une différence entre dire les Américains sont intervenus en Irak pour leur approvisionnement en pétrole et dire les Américains sont en Irak parce que les chrétiens de toute éternité ont un compte à régler avec les musulmans. C'est là, je crois, une idée très simple à laquelle moi je suis très attaché. Que je sache, en Europe, on a critiqué l'intervention américaine en long, en large et en travers, même si de fait on a peu fait contre. Mais de là à verser dans une victimisation, comme vous l'avez appelé.
Mais non, mais justement. Une analyse cohérente de la politique américaine.
Mais c'est tout à fait cohérent. Ce que je dis, ne vous inquiétez pas, je fais la distinction entre une critique politique et un fantasme basé sur
voilà,
une...
Voilà, je voulais juste vous l'entendre dire. Ça m'apparaissait important quand même que vous ne passiez pas sous silence des responsabilités fondamentales dans les crises et les fractures que nous vivons aujourd'hui dans l'ordre du monde.
Il reste la question, Monsieur Ramadan, que Monsieur Milleli pose, celle de la responsabilité personnelle. Et moi, comme sociologue, je manque d'outils pour comprendre ce passage d'une idéologie globale vers une décision d'action. Franchement, on a essayé de travailler cette question et du point de vue vraiment de l'analyste, du sociologue, je crois qu'il y a des avancées à faire. Qu'est-ce qui se passe pour arriver à une telle décision, qui est celle du suicide, qui est celle aussi de l'assassinat de masse ou des choses de ce genre. Là, il y a un passage fort quand même.
Nos invités pour cette première partie de Et Dieu dans tout ça étaient donc Felice D'Aceto, islamologue et professeur de sociologie à l'UCL, Tariq Ramadan, islamologue enseignant dans différentes universités en Suisse et en Grande-Bretagne, et enfin Jean-Pierre Milleli, professeur à Sciences Po à Paris et co-auteur du livre intitulé « Al-Qaïda dans le texte » paru en septembre 2005 aux presses universitaires de France.
Et Dieu dans tout ça ? Livre.
Alors, quels liens peuvent-ils exister entre le cinéma et la franc-maçonnerie ? Eh bien, cette question très particulière trouve une réponse inédite dans un livre qui était paru à l'été 2005 aux éditions Dervy, sous le titre « Franc-maçonnerie et 7e art ». Je vous propose maintenant de réentendre l'entretien que son auteur, Harry Swertz, nous avait accordé à l'occasion de la parution de ce livre à la fois original et surprenant. Harry Swartz, franc-maçonnerie et 7e art, c'est donc le titre d'un livre que vous venez de faire paraître aux éditions d'Hervy. Alors quel était votre but finalement en faisant cette étude, assez inédite d'ailleurs, je ne crois pas qu'il existe beaucoup d'études comparables.
Non, absolument pas, je crois que c'est effectivement le tout premier travail fait par un maçon ou par un autre d'ailleurs à propos de l'image. Eh bien, mon but est tout simple, je suis maçon et je me suis rendu compte que les maçons passent très souvent à côté de l'image, ils sont assez passéistes, me semble le bon terme, et ils sont plutôt littéraires. Alors, vous savez que dans ce milieu, on planche, c'est-à-dire qu'on présente des conférences, et que j'ai voulu, moi, montrer aux maçons qu'ils passaient à côté de quelque chose d'essentiel, qui était l'image, qu'ils n'utilisent pas assez, ni dans leurs propos, ni dans leurs débats, et dont ils négligent souvent l'impact.
Est-ce que vous-même, vous avez été surpris du nombre de films qui, peu ou prou, d'une manière appuyée ou simplement allusive, traitent ou évoquent la franc-maçonnerie ?
Oui, je dois dire qu'au départ, j'étais vraiment resté sur, comme tout le monde, sur les trois ou quatre films essentiels, bien sûr, et bien évidemment Force occulte, qui est pratiquement mythique et qui est d'ailleurs interdit. Et c'est bien dommage parce que je crois que c'est un des rares films aussi bien réalisé pour finir sur, non pas la franc-maçonnerie, mais sur la propagande. C'était un film qui devrait être utilisé au point de vue pédagogique depuis les écoles secondaires jusque dans les études les plus forcées de psychologie publicitaire, etc. Sur ce que c'est que la propagande, il faut quand même se rappeler que ce film est de 43. On dit que c'est un film nazi, c'était pas un film nazi du tout, c'était un film bien français. Mais on peut quand même se dire aussi que Goebbels a été un des maîtres de la propagande et que probablement certains des réalisateurs se sont inspirés de ses conseils. Les autres films, tout à fait patents, étant L'homme qui voulait être roi. Et c'est vraiment une découverte assez banale, pour finir, qui m'a fait réagir. Je suis un homme qui aime beaucoup les westerns. Et bon, je savais que John Wayne était maçon, enfin maçon à la mode américaine. Et en revoyant Alamo, inspiré d'ailleurs par John Huston, qui lui aussi était maçon, je me suis rendu compte que le discours que tenait Travis était quelque chose que j'avais déjà vu quelque part. C'est une déclaration de principe d'une loge américaine, ce qui est assez marrant qu'elle soit pratiquement énoncée mot à mot dans un film grand public et qui est un western très très connu. C'est aussi assez extraordinaire. Je me suis d'abord donc penché sur Alamo, c'est que tous les protagonistes étaient maçons, non seulement les acteurs, mais aussi les gens qui représentent, Travis, Crockett, etc., étaient des francs-maçons.
Pour en revenir à L'homme qui voulut être roi de John Huston, paru en 1975, là c'est un film peut-être assez exceptionnel puisque tout tourne autour des symboles maçonniques. On ne va pas raconter ici l'histoire en détail, mais le roman dont cette histoire est inspirée est évidemment de Rudyard Kipling, qui lui-même était franc-maçon, ne s'en cachait pas. John Huston, vous venez de le dire, était franc-maçon. Est-ce que Sean Connery, l'un des acteurs principaux, l'était aussi? On peut le penser. Et c'est un film amusant, qui se termine mal, mais où vraiment les symboles maçonniques ont une importance extrême et sous-tendent en réalité, du début à la fin, le scénario. Est-ce que, à votre avis, Harry Swartz, c'est un cas relativement unique ou bien vous avez d'autres exemples, peut-être plus récents aussi, où des symboles maçonniques ont été utilisés véritablement comme support central de la trame narrative ?
Non, pas vraiment, encore que il y a quand même quelque chose de patent, c'est que souvent, le symbole peut servir d'élément dramatique. Par exemple, dans un épisode de Columbo, si Columbo parvient à démasquer la criminelle, puisqu'il s'agit d'une dame, d'une actrice sur le retour, c'est grâce à la bague maçonnique de son mari. Donc l'élément dramatique du film, c'est la bague maçonnique. Donc tout le film tourne autour de cette bague maçonnique pour finir. C'est évidemment pas un film de valeur extraordinaire, mais très souvent, si le symbole maçonnique est présent, ce n'est pas qu'un clin d'œil, c'est aussi parfois et même souvent une explication du caractère du personnage qui le porte ou alors ça peut rentrer comme élément dramatique, comme ça l'est tout à fait évidemment dans l'homme qui voulait être roi, puisque c'est la reconnaissance de l'équerre et du compas qui fait que, etc., etc. Mais comme vous l'avez dit vous-même, on ne va pas raconter tout le film, il vient d'ailleurs de ressortir en DVD, et c'est assez extraordinaire de le revoir.
Harry Swartz, est-ce que entre le cinéma américain et le cinéma européen, vous trouvez qu'il y a une grande différence de traitement du thème maçonnique, soit comme moteur central du scénario, soit des allusions, peut-être même des clins d'œil de complicité, je dirais, que certains réalisateurs ont pu mettre ici et là. Est-ce qu'il y a une sensibilité différente des deux côtés de l'Atlantique ?
Mais c'est-à-dire que ça permet surtout, puisque là, aux États-Unis, il y a jusqu'à des défilés de maçons, et que ça permet aussi beaucoup plus de films très drôles, comme par exemple les Laurel et Hardy ou d'autres qui se moquent visiblement de la maçonnerie ou un dessin animé célèbre. Mais la profondeur est totalement différente. En Europe, lorsqu'on traite la maçonnerie de manière négative, ce qui est quand même plus que 50% le cas, c'est bien dans le sens d'y voir une secte malfaisante ou d'y voir des individus un petit peu qui se cachent. Et si on se cache, c'est bien pour faire le mal. C'est d'ailleurs quelque chose contre lequel moi je lutte personnellement. Mais je serais pour beaucoup plus de transparence. Et je crois que s'il y a justement toute cette démarche, c'est parce que ce manque de transparence permet tous les fantasmes, etc. Ceci dit, il y a des films américains où les maçons sont aussi pas les meilleurs du cru, et notamment dans certains films comme U-Turn ou d'autres, le maçon n'est pas le personnage central qui est le plus honnête et le plus droit. Il y a des flics malhonnêtes, et puis il y a aussi des allusions possibles à d'autres sectes comme le Ku Klux Klan, etc., qu'on rapproche parfois de la maçonnerie. Mais je crois qu'effectivement, la démarche est complètement différente, et c'est patent, c'est visible que les films américains ou les films anglo-saxons ont plus facilement accès à la maçonnerie que les films français ou européens.
Avec aussi parfois des parodies, vous l'avez dit très tôt dans l'histoire du cinéma, Laurel et Hardy, il y en a d'autres aussi, peut-être Buster Keaton, il y a des allusions assez croustillantes, et puis aussi carrément des choses humoristiques où la maçonnerie est tournée en dérision. Ça existe aussi, et c'est une spécialité plutôt américaine ?
Non, moi je crois que d'abord, c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'est un petit peu comme certains Européens ou n'importe qui, les Buster Keaton ou Oliver Hardy étaient maçons et se moquent donc d'eux-mêmes. Ce qui est évidemment, et ce que je dénonce plutôt, c'est l'autre usage, c'est-à-dire justement l'usage fait dans un film italien comme un Borghese Piccolo, où la maçonnerie est traitée, mais il faut aussi se remettre dans le contexte de la Pédoux, etc., qui était un scandale assez extraordinaire en Italie à l'époque, est traitée comme étant un endroit où tout se décide et où il y a moyen d'avoir des tas d'avantages, etc. Rassurez-vous, je ne serais pas là où je suis pour le moment si tout cela avait été possible.
Harry Swartz, un mot spécial, je dirais, dédié à André Delvaux, ce grand cinéaste belge. Dans certains films comme L'œuvre au noir, par exemple, il y a carrément des symboles maçonniques qui sont montrés. Il y a aussi certains pans du scénario qui sont sous-tendus par une progression spirituelle que le héros vit et qui sont ponctués de symboles maçonniques. Est-ce que là aussi, c'est une contribution à cette grande typologie du film maçonnique dans son ensemble ?
Vous savez que nous avons fait tous le serment de ne pas dévoiler l'appartenance maçonnique de l'un ou de l'autre avant sa mort. Bon, Delvaux, effectivement, comme il est passé à l'Orient éternel, comme on dit chez nous, on peut le dire, c'était un maçon et un maçon actif. Donc, effectivement, je crois que dans tous ses films, et pas seulement dans L'œuvre noire, où c'est peut-être un petit peu plus patent, sont sous-tendus par une démarche ou en tout cas une réflexion maçonnique ou qu'il a eue en maçonnerie. Mais là, je vous renvoie à des écrits beaucoup plus profonds sur Delvaux, Et je crois que l'analyse même du personnage mérite encore beaucoup plus de pages que celles que j'ai pu mettre dans mon livre.
C'était donc la rediffusion d'un entretien avec Harry Swert, qui nous parlait de son livre « Franc-maçonnerie et 7e art » paru aux éditions d'Hervy à l'été 2005. C'est ici que se termine « Dieu dans tout ça » pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'agissait de rediffusion, et ce dans le cadre de la saison estivale. Je vous rappelle également que vous pouvez réécouter gratuitement et à volonté ce programme depuis le site internet de La Première. Dans quelques instants, ce sera le flash d'info de midi. Et ensuite, nous vous proposerons de suivre également la première partie d'une série exceptionnelle qui avait été diffusée la première fois en septembre 2006. Cette série s'intitule « Mécanique terroriste » et elle vous emmènera tous les dimanches de midi à 13h et durant 10 semaines dans les méandres de l'histoire du terrorisme contemporain de 1945 à 2001. Excellente journée à l'écoute de La Première.
Jean-Paul Heck. Retrouvez « Et Dieu dans tout ça » le dimanche de 11h à midi.
La Première.